Le grand jury RTL Le Figaro LCI invité Alain Juppé, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes l'invité, Alain Juppé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujotte du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Nous commencerons ce grand jury par l'actualité internationale qui est très fournie, une actualité internationale dans laquelle la France est directement impliquée, bien sûr, Afghanistan, Proche-Orient, Syrie, Europe. Mais allons commencer, si vous le voulez bien, par la Libye. La France est engagée aux côtés de la Grande-Bretagne dans le cadre de l'OTAN avec d'autres nations dans une action militaire contre le pouvoir libyen. Si nous devions faire un point à cet instant, que pourriez-vous dire de cette action militaire dont on a l'impression qu'elle ne donne peut-être pas tous les résultats escomptés, que la résistance du colonel Kadhafi est plus importante que celle que vous aviez imaginée?
Je commencerai par me demander, si vous voulez bien, s'il fallait intervenir en Libye. Et ma réponse est claire, oui. Il faut se reporter quelques mois en arrière, quatre mois en arrière. Que se passait-il? Les colonnes blindées de Kadhafi fonçaient sur Benghazi, une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, et le dictateur libyen avait annoncé très clairement ce qu'il allait faire, c'est-à-dire se venger et massacrer ses opposants. Nous avons arrêté in extremis cette opération et évité un bain de sang. Depuis, l'opération militaire se déroule. Peut-être, en parlant d'une affaire de quelques semaines, avais-je moi-même sous-estimé la capacité de résistance de Kadhafi, mais nous marquons des points. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour saluer le courage et l'efficacité de nos soldats qui sont à la pointe de ce combat.
Quel point marquons-nous ?
Misrata a été, sinon libéré, du moins l'étau autour de Misrata a été desserré. La pression s'accroît sur Tripoli. Dans la région ouest, dans le Jebel Nafusa, les forces du Conseil national de transition, c'est-à-dire les forces d'opposition, marquent des points. Et donc, nous avançons et nous allons continuer à exercer cette pression dans le strict respect de la résolution des Nations Unies. Et dans le même temps, on voit bien que les choses se délitent. À Tripoli, les défections se multiplient et les messages sont de plus en plus nombreux provenant de l'entourage proche de Kadhafi. La question, en fait, aujourd'hui, n'est plus de savoir s'il va partir, mais comment il va partir.
Il est toujours à Tripoli, le colonel Kadhafi est
toujours à Tripoli, mais je le répète, la recherche d'une solution politique mobilise aujourd'hui d'abord un certain nombre de gens à Tripoli, mais aussi une grande partie des médiateurs dont le rôle peut être très utile, en particulier l'Union africaine qui est en train de rechercher une solution. Pour nous, les conditions de ce départ sont très claires. Il faut que Kadhafi quitte ses responsabilités civiles et militaires.
Comment il va partir, que voulez-vous dire ?
Eh bien, il faut qu'il annonce qu'il quitte le pouvoir. Ensuite, un cessez-le-feu peut intervenir aux conditions fixées par les Nations Unies, c'est-à-dire avec le retrait de ses troupes dans les casernes et un contrôle international. Et puis, s'enclenche à ce moment-là le dialogue national autour du Conseil national de transition, élargi à d'autres partenaires. Voilà le schéma sur lequel nous travaillons tous, la communauté internationale, la coalition, l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres encore.
Pour entrer un petit peu plus dans le détail de négociations officieuses et sur lesquelles nous savons peu de choses, vous dites qu'il faut que Kadhafi s'en aille, très bien. Est-ce que ça veut dire que dans un futur gouvernement, une future assemblée, un futur pouvoir, on pourrait imaginer que des proches de Kadhafi, on pense à ses fils, puissent éventuellement participer? Ou est-ce que c'est tous les Kadhafis qui doivent s'en aller?
D'abord, ce n'est pas Alain Juppé qui dit que Kadhafi doit partir. C'est le G8, c'est la Ligue arabe. C'est l'Union européenne unanime, c'est donc, et c'est la coalition qui s'est réunie il y a peu de temps à Abu Dhabi et qui va se réunir à Istanbul. Savoir comment sera constituée ensuite la nouvelle équipe libyenne, c'est aux Libyens d'en décider, et pas à moi. Je serais tenté de dire que ceux qui n'ont pas du sang sur les mains, naturellement, pourront participer à ce processus de réconciliation nationale.
On a l'impression qu'il y a une sorte de course contre la montre entre le départ de Kadhafi que le G8 souhaite
et même les Russes.
Même les Russes, et l'engagement militaire des Européens sous l'égide de l'OTAN. On voit qu'un certain nombre de pays sont sur le point de se désengager. Est-ce qu'on ne risque pas de voir seule la France et la Grande-Bretagne bombarder Tripoli, ou en tout cas ses alentours, et avoir un colonel Kadhafi qui attende finalement que tout cela se termine?
Nous avons les moyens de poursuivre cette opération, et au sein de la coalition, il n'y a pas aujourd'hui de dissension sur la nécessité de maintenir, voire d'accentuer la pression militaire. Vous savez que nous utilisons depuis quelques semaines des hélicoptères français et britanniques qui permettent de beaucoup mieux cibler les frappes, et donc cette pression militaire ne se relâche pas.
Par exemple, les Norvégiens, les Italiens, les Belges, les Danois, tout le monde s'interroge sur la poursuite de l'offensive militaire en Libye.
Pour l'instant, c'est une interrogation, ça n'est pas une remise en cause de l'intervention.
Mais il y a une prise de position qui a quand même un peu surpris. Monsieur Gates, le ministre américain.
Ça, c'est autre chose, ça. Parce que M. Gates, il n'est pas dans la coalition.
Non, mais, certes, mais quand il parle du manque d'investissement militaire et de volonté politique des alliés, on a envie de dire, il ne manque pas d'air, quand même.
Eh ben, écoutez, vous avez tout dit. voilà, j'ai rien à rajouter. Quand je disais qu'il n'est pas dans la coalition, ce n'est pas tout à fait exact. Ils sont dans la coalition, mais disons en soutien. Avec des avions ravitailleurs ou quelques drones, mais ils nous ont gentiment fait entendre que c'était à nous, les Européens, de faire le job, si je puis dire. Et c'est un peu désagréable aujourd'hui d'entendre dire que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous le faisons.
Vous rappeliez que le G8 de Deauville avait insisté pour que le colonel Kadhafi parte. Et je pense qu'aussi, pendant le G8, il avait été, l'idée avait été mise que le président Sarkozy et vous-même iriez à Benghazi.
Le président.
Est-ce que cette visite est toujours d'actualité?
Le président Sarkozy ira très certainement en Benghazi quand les conditions seront réunies. Vous savez, nous avons à Benghazi un représentant de haut niveau, qu'on peut qualifier d'ambassadeur, même si le Conseil national de transition n'est pas encore à proprement parler un gouvernement. Et nous savons très bien quelle est l'image de la France à Benghazi et dans toute la partie de la Libye qui a été libérée. Pour utiliser ce mot.
Mais vous dites quand les conditions seront réunies.
Ça veut dire qu'elle est très positive.
Quand les conditions seront réunies, pourtant le chef de la diplomatie allemande lui a considéré qu'elle l'était puisqu'il s'est rendu à Benghazi.
Oui, le chef de la diplomatie allemande s'est rendu à Benghazi mais n'a pas participé à l'opération militaire. Donc sa venue n'avait pas la même portée que celle qu'aura celle du président Sarkozy.
Vous dites, et c'est vrai, l'engagement français est fort, il est remarquable. C'est vrai que les chasseurs Rafale ont formidablement marché, mais quand on regarde les chiffres, le budget militaire français, en 89, c'était 3,3% du produit intérieur brut. En 2010, c'était 1,7%. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à descendre, ou bien est-ce qu'il y a un moment où il faut qu'on dise, soyons raisonnables, on ne peut pas infiniment descendre un budget de la défense si on veut garder une possibilité d'intervention et de projection à l'extérieur.
Vous savez, M. Etienne-Moujotte, qu'on s'est livré il y a quelques années à un exercice qui s'appelle le Livre blanc, pour définir les objectifs stratégiques de la France, à quelle mission doit répondre notre défense. Et puis nous avons fait une loi de programmation militaire qui dégage les moyens nécessaires. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que dans la période récente, on n'a jamais tant investi dans l'équipement de nos armées. On a vu d'ailleurs la différence en Afghanistan entre la situation il y a quelques années et la situation aujourd'hui. Donc je crois que nous avons aujourd'hui les moyens de nos ambitions, même si naturellement le budget du ministère de la Défense doit être soumis à la même efficacité que l'ensemble de nos budgets.
Le fait que cette opération militaire en Libye dure davantage que vous-même, vous n'aviez pu le dire Alain Juppé au début de celle-ci, pose quand même plusieurs questions. Des militaires de haut rang, le chef d'état-major de la marine par exemple, d'autres de manière plus anonyme, explique que l'appareil militaire français sera très vite essoufflé et incapable de mener l'action dans quelques temps. Est-ce, savez-vous, de ce point de vue, une inquiétude, Alain Juppé?
Oh, parfois, ce sont des officiers généraux qui partent à la retraite qui sont un peu essoufflés eux-mêmes, plus que la capacité de défense de la France.
Le chef d'état-major de la marine a été assez alarmiste, hein?
Oui, ben c'est à lui que je pensais, effectivement.
Il part à la retraite bientôt.
Mais Monsieur Longuet a bien répondu sur ce point-là. Nous avons aujourd'hui les moyens de faire ce que nous avons entrepris de faire. Je vous rappelle que par ailleurs, nous sommes en train de redéployer notre dispositif. Nous avons eu au plus fort de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans la force Licorne, plus de 1500 hommes. Nous allons tomber à la fin de cette année à quelques centaines. Hein, et la même évolution se produira sur d'autres théâtres d'opération. Donc nous ajustons l'ensemble de notre dispositif à nos moyens.
Craignez-vous un enlisement en Libye? Que encore l'action puisse durer longtemps et que vous préparez-vous à une action encore longue?
Nous souhaitons que la solution politique émerge le plus vite possible.
Alors justement,
ça en prend le chemin?
Oui, je vous l'ai dit, le Conseil national de transition se renforce, sa légitimité internationale est reconnue par un nombre de plus en plus important de pays, il s'organise davantage, nous allons lui apporter le financement qui est nécessaire, donc de ce point de vue-là, les choses avancent. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, les choses se délitent à Tripoli autour de Kadhafi, donc nous sommes en train d'avancer dans la perspective de cette solution politique.
Le gouvernement a besoin, pour poursuivre l'action, puisqu'elle aura commencé, elle aura duré 4 mois le 19 juillet, d'un accord du Parlement, et une discussion est prévue le 12 juillet avec un vote des parlementaires pour permettre au gouvernement de poursuivre l'action militaire. Est-ce que vous espérez un soutien unanime, par exemple à l'Assemblée nationale, pour l'action militaire que vous menez en Libye ?
Unanimité, c'est beaucoup dire. Et nous savons que certains groupes politiques, comme le groupe communiste, n'a jamais soutenu cette intervention.
Du moins que le Parti socialiste la soutienne ?
On verra, ils prendront leurs responsabilités. Je voudrais simplement souligner que depuis le début de l'opération, le Parlement a été régulièrement informé. Le Premier ministre a reçu les présidents de groupe. Je suis allé moi-même et Gérard Longuet, ministre de la Défense, devant les commissions des Affaires étrangères et, la commission, et les commissions de Défense. Et j'ai répondu presque toutes les semaines à des questions d'actualité au Parlement. Donc le Parlement a été informé. Et là, dans le strict respect de la Constitution, dans ce délai de 4 mois que vous avez rappelé, il se prononcera sur la poursuite de l'opération.
Vous avez remis en avant une fois de plus au Conseil national de transition. On dit que des négociations, des contacts ont été pris entre les représentants de ce Conseil national de transition et le colonel Kadhafi ou ses proches. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces négociations qui donneraient peut-être naissance à un début de solution politico-diplomatique dans ce pays?
Quand je vous ai dit que la solution politique avançait, mais voilà, une démonstration supplémentaire, le fait que nous pouvons avoir bon espoir de ce processus de réconciliation nationale, ces contacts ont lieu, je n'en connais pas le détail, naturellement. Je sais qu'ils portent, par exemple, sur le sort réservé à Kadhafi lui-même, qui est une des questions centrales aujourd'hui, avant de trouver ce momentum qui va nous permettre de passer de la phase militaire à la phase politique. Il faudra ensuite enclencher une phase de reconstruction de la Libye, qui appartiendra aux Libyens eux-mêmes, mais nous devrons vraisemblablement et même certainement les accompagner.
Les accompagner, par exemple, en déléguant une force de l'ONU pour s'interposer entre
en surveillant le cessez-le-feu, et ce sera sans doute le rôle de l'ONU ou de l'Union africaine.
Il paraît qu'il y a une inquiétude particulière pour le jour d'après. Chez les Britanniques, par exemple, en France aussi, votre ministère paraît-il a monté une cellule pour éviter que la Libye ne connaisse le sort qu'a connu l'Irak, c'est-à-dire une forme de guerre civile.
C'est pas une inquiétude, c'est une préparation. Nous nous préparons au jour d'après.
Vous le confirmez?
Absolument.
Sans inquiétude particulière?
S'il n'y a pas d'inquiétude dans une affaire comme ça, je serais irresponsable. Bien sûr qu'on est inquiet, mais enfin, il faut surmonter ces inquiétudes pour essayer d'agir.
Il y a un risque que la situation libyenne dérape comme elle a pu déraper en Irak après le départ de
Jean-Yves. Je vous disais qu'il n'y a absolument aucun risque, je serais irréaliste. Je pense que ce risque est faible et que nous avons face à nous des personnes responsables. Le Conseil national de transition s'organise, il est prêt à s'ouvrir à d'autres, et vous venez d'en apporter vous-même l'indication à propos des discussions qu'ils ont avec les responsables de Tripoli. Et donc je crois qu'en les accompagnant, la Libye pourra se reconstruire.
Etienne Moujotte.
On va parler de l'Afghanistan, si vous voulez bien. Les Américains ont annoncé qu'ils allaient commencer le repli, et nous avons immédiatement dit que nous allions, de notre côté, faire la même chose. Et déjà, on nous accuse, ou on vous accuse, du côté de l'opposition socialiste, de suivisme.
Écoutez, si l'affaire n'était pas aussi grave, ça me ferait un peu sourire. Parce que ceux-là même qui hier nous disaient « faut partir », le jour où nous annonçons un début de retrait, nous disent qu'on le fait par suivisme. Tout ça n'est pas sérieux. Ça prouve simplement qu'ils n'ont pas vraisemblablement grand-chose à dire de plus. Je vous rappelle ce qu'on a décidé en décembre dernier à Lisbonne, ça s'est appelé la stratégie de Lisbonne. On a décidé un processus de transition, c'est-à-dire de retrait progressif des forces de la coalition de l'OTAN, au profit, si je puis dire, des forces afghanes d'ici 2014. Les Américains avaient renforcé leur dispositif l'année dernière, ils l'allègent aujourd'hui, et nous-mêmes, nous nous insérons dans ce processus d'allègement. Nous avons une région dans laquelle nous intervenons depuis plusieurs années, qui est la Surobie. Nous pensons qu'aujourd'hui, elle est sécurisée et que nous pouvons passer la responsabilité à l'armée afghane. Oui, et c'est ce processus qui est en cours de mise en œuvre. Nous le ferons. Nous ne sommes pas seuls à décider, hein. Il faudra une décision du gouvernement afghan lui-même. Nous voulons le faire cette année, en 2011.
Avant la fin de l'année, il faut que la passation de pouvoir avec l'armée afghane ait eu lieu dans cette région.
En Surobie, nous avons une région plus vaste qu'à la Kabissa, où ça se fera l'année prochaine.
Donc ça veut dire un millier d'hommes, ça, qui rentrerait.
Ça ne vous donnerait pas de chiffres, il appartient au ministre de la Défense de faire des propositions au chef des armées, qui est le chef de l'État,
enfin,
qui décidera.
Mais sans parler de suivisme, on peut s'interroger quand même sur la décision. Pourquoi est-ce qu'elle a été prise aujourd'hui? Un 63e soldat français a été tué hier, en samedi, en Afghanistan. C'est donc l'intervention militaire n'est sans doute pas à son bout, puisqu'il y a encore énormément de risques. On quitte donc l'Afghanistan, M. Juppé, pour des raisons budgétaires, pour des raisons politiques, un peu comme Obama, qui va sans doute se présenter de nouveau à la Maison-Blanche. Pour quelles raisons quitte-t-on
l'Afghanistan ? Je sais bien qu'en démocratie, toute décision est considérée a priori comme électoraliste. De toute façon, comme il y a des élections en permanence dans nos démocraties, on ne peut rien faire d'autre qui ne soit électoraliste. Et puis c'est une curieuse approche d'ailleurs, parce que tenir compte de l'état de l'opinion, c'est de la démocratie ou c'est de l'électoralisme ? Je sais bien que les responsables politiques n'ont pas toujours à suivre l'opinion, c'est vrai. Mais il y a des cas quand même, il faut tenir compte de ce que pensent les gens. Hein. Ça s'appelle la démocratie. Je le répète, ce processus de retrait, il a été programmé. Et donc, nous sommes exactement dans la logique que nous avions annoncée. Je l'ai dit moi-même quand j'étais ministre de la Défense, nous souhaitions nous retirer de Surobi en 2011, donc ça n'est pas un élément tout à fait nouveau. Le fait que nous l'annoncions en même temps que les Américains, eh bien, c'est tout simplement la démonstration que la coalition fonctionne en cohérence, et non pas dans le désordre.
À quel moment n'y aura-t-il plus de soldats français en Afghanistan ?
Je ne peux pas donner la date, en tout cas la date butoir pour tout le monde.
2014.
Elle est très clairement indiquée.
Et vous espérez que ça ira plus vite ?
Je l'espère. J'ajoute aussi que le processus de retrait n'est pas la seule décision qui a été prise à Lisbonne. Simultanément, nous souhaitons qu'il y ait un processus de réconciliation nationale et donc de dialogue entre le gouvernement de Kaboul et puis ceux des talibans qui acceptent de ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire qui renoncent au terrorisme et qui acceptent la constitution afghane. Vous savez que ces contacts existent. Il faut ensuite impliquer le Pakistan dans la recherche d'une solution. Les contacts existent là aussi. Et enfin, il faut préparer là aussi le jour d'après, c'est-à-dire après 2014, c'est-à-dire le partenariat stratégique de longue durée que nous avions évoqué à Lisbonne. Et là-dessus, la France souhaite être étroitement associée à ce que font nos partenaires américains.
Est-ce que cette situation d'annonce de retrait des troupes américaines, donc des troupes françaises, des troupes occidentales en général, peut faciliter la libération des otages détenus en Afghanistan ?
Écoutez, sur cette question qui est pour nous une préoccupation quotidienne. Je vous aide d'une grande prudence. Je ne sais pas si c'est un élément de facilitation ou un élément d'aggravation. Ce que je sais, c'est que nous travaillons tous les jours à obtenir cette libération.
J'aimerais revenir quand même sur les contacts préliminaires pris avec les talibans, entre guillemets raisonnables, ceux qui condamnent le terrorisme. Le président Hamid Karzai parle, lui, de négociation avec ces mêmes talibans. Est-ce que pour vous, le fait de négocier avec des talibans, entre guillemets raisonnables, c'est un aveu d'échec des armées occidentales en Afghanistan ?
Absolument pas. Je dirais même que c'est une preuve de succès. Si nous sommes intervenus militairement, c'est pour que le gouvernement afghan reprenne la main et qu'il soit en mesure de négocier et de rétablir la concorde nationale en Afghanistan. J'ajoute que, pour revenir sur ce que vous disiez, pourquoi le moment, il faut aussi tenir compte d'un élément qui n'est peut-être pas décisif, je veux bien l'admettre, mais qui a été l'élimination de Ben Laden et qui crée quand même un contexte nouveau.
Étienne Moujotte.
Selon le New York Times de vendredi, des écoutes téléphoniques prouvent que les services secrets pakistanais, l'ISI, en fait ont aidé Ben Laden à se cacher et à survivre à Bottabot. Est-ce que ça n'est pas un problème extrêmement difficile pour les alliés, pour nous, mais aussi pour les Américains, que d'avoir un Pakistan incroyablement duplice, aidant Ben Laden et par ailleurs étant engagé à faire en sorte que terrorisme ne prospère pas. Enfin bref,
J'essaie de conduire la diplomatie française sous l'autorité du président de la République, pas forcément en m'appuyant sur des indications de la presse résultant elles-mêmes d'écoutes téléphoniques. J'essaie d'avoir des éléments d'appréciation
Pour
revenir à la présentation que vous en faisiez. Donc, je reconnais que la question du Pakistan se pose, vous avez tout à fait raison de la poser. J'ai eu moi-même l'occasion, juste après la mort de Ben Laden, de demander au Premier ministre pakistanais comment il expliquait le fait que Ben Laden ait pu habiter aussi longtemps dans une ville pakistanaise sans qu'il ait attiré l'attention de personne. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on sait très bien comment se pose ce problème pakistanais. L'objectif, c'est de ramener le Pakistan avec nous, et d'éviter d'entretenir des dissensions ou des procès d'intention. C'est ce que les Américains souhaitent faire, c'est ce que nous souhaitons faire aussi.
Alors, toujours à propos du Pakistan, il y avait une résolution depuis 1999, 1267, je crois, du Conseil de sécurité, qui avait édicté une liste noire à la fois des talibans les plus dangereux et des membres d'Al-Qaïda. Le Conseil de sécurité a décidé qu'il y aurait maintenant deux listes, c'est-à-dire ceux qui sont très dangereux, Al-Qaïda, et les talibans. Or, le Pakistan, précisément, il abrite à la fois les terroristes d'Al-Qaïda et à la fois l'état-major des talibans. On fait preuve d'angélisme, de naïveté, lorsqu'on fait deux listes comme ça, avec des dangereux et des pas dangereux.
Avec qui fait-on la paix ? Avec ses amis ou avec ses ennemis ? Donc si on veut faire la paix en Afghanistan, il faut bien négocier avec l'adversaire, dès lors que l'adversaire, je l'ai dit tout à l'heure, ne franchit pas la ligne rouge que j'ai indiquée. C'est-à-dire le terrorisme et le refus de la démocratie.
Et que fait-on avec la Syrie, Alain Juppé, puisque le président Bachar el-Assad continue de réprimer avec une extrême violence ceux qui contestent son pouvoir ? Est-ce qu'on est impuissant ou est-ce qu'on peut faire quelque chose ?
On nous dit souvent, mais de poids de mesure. Pourquoi ne faites-vous pas en Syrie ce que vous avez fait en Libye ? D'abord, je voudrais dire que la France n'a pas du tout l'intention d'intervenir militairement partout. Nous l'avons fait en Libye parce que le contexte était ce que je vous ai dit. Au début de la répression en Syrie, le contexte n'était pas le même. Et puis deuxièmement, la France n'intervient que dans le cadre de la légalité internationale, c'est-à-dire sur un mandat du Conseil de sécurité. Nous y sommes arrivés pour la Libye, vous vous souvenez du vote de cette résolution qui a été acquis in extremis. Nous n'y arrivons pas aujourd'hui pour la Syrie, pour une raison tout à fait simple, c'est que la Russie et la Chine continuent à opposer leur veto à toute résolution. Je le regrette, nous continuons à travailler pour faire évoluer la Russie et la Chine. Nous essayons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'avoir 11 votes minimum au Conseil de sécurité pour faire basculer les choses et avoir une déclaration qui condamne cette intervention et qui enjoigne Bachar al-Assad de reprendre un processus de réforme. Nous en sommes là et je regrette que la répression continue à se déchaîner dans des conditions qui mettent en question la sécurité de la région, puisque on est à plus de 10 000 réfugiés en Turquie, et que les conséquences également sur le Liban et sur Israël peuvent être extrêmement dangereuses et inquiétantes.
Donc, horizon prévisible, pas de résolution de l'ONU possible pour l'instant.
Mais je ne serai pas aussi pessimiste que vous, nous continuons à travailler pour déclencher. Mais ce que je voudrais dire, c'est que voilà, on dit toujours la France n'y arrive pas. Non, il y a un contexte international. J'ajoute que sur la Libye, il y avait un consensus parmi les pays arabes.
Qui n'existe pas aujourd'hui.
Et d'ailleurs, la résolution 1973 a été portée par le Liban. Aujourd'hui, ce consensus n'existe pas parmi les pays arabes.
Et vous avez déclaré l'année dernière, là je vous cite, certains considèrent qu'il est encore temps pour Assad de s'amender et d'engager un processus de réforme. Pour ma part, j'en doute, je crois que le point de non-retour est atteint. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, Assad nécessairement doit partir ?
Écoutez, je veux bien admettre que je me trompe. Mais franchement, non, mais
vous hésitez.
C'est moi qui le dis, c'est pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas à la capacité aujourd'hui du président syrien d'inverser la tendance. Les choses ont été trop loin, la répression a été trop brutale et trop sauvage. Et je crois qu'il y a une véritable aspiration dans la population syrienne à changer les choses. Si Bachar al-Assad nous apporte la démonstration dans les semaines qui viennent qu'il est capable de faire des réformes très profondes, alors je me serais trompé. Mais je le répète, j'en doute.
Éric Revel,
il y a un groupuscule qui est en train de profiter visiblement de la situation et qui joue sur la chute du régime bassiste de Bachar al-Assad, c'est le Hezbollah. L'ONU confirme que le Hezbollah est en train de faire migrer son armement de Syrie vers le Liban. Est-ce que cette situation, vous l'avez en tête et vous inquiète beaucoup pour l'avenir de la paix dans la région ?
Je vous ai dit que la situation en Syrie aujourd'hui était une menace pour la paix et la stabilité dans la région, à la fois pour la question des réfugiés, mais aussi pour celle que vous invoquez. C'est la raison pour laquelle nous essayons de dire à nos amis russes, cette résolution, elle est nécessaire. Parce que ce n'est pas simplement la situation intérieure à la Syrie qui est en cause, c'est aussi la stabilité et la paix de la région.
Et dans la région, il y a aussi les Israéliens, les Palestiniens qui n'arrivent toujours pas à avancer sur la question de la paix. Vous aviez proposé une conférence à Paris pour la fin juillet, et puis on n'en entend plus trop parler. Est-ce que ça reste un projet de la diplomatie française de réunir les Israéliens et les Palestiniens à Paris pour tenter d'avancer ?
Vous n'avez pas échappé, M. Apathy, que hier, je crois, non, avant-hier, c'était vendredi, dans les conclusions du Conseil européen, qu'est-ce qu'on lit sur le processus de paix au Proche-Orient ? Eh bien que les 27 États membres de l'Union, les 27 chefs d'État et de gouvernement, souhaitent une conférence qui pourrait avoir lieu à Paris pour entamer des négociations entre les deux parties. Je voudrais rappeler un peu la mécanique. Non, ce n'est pas du tout exact. Quel est d'abord le point de départ ? Le point de départ qui fait une relative unanimité, c'est que le statu quo n'est pas tenable. Et nous le disons aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Tout bouge autour d'eux. L'Égypte d'aujourd'hui n'est plus l'Égypte d'il y a 6 mois. Ce qui se passe en Syrie, on vient d'en parler longuement, et ainsi de suite. Et donc, il serait incompréhensible et dangereux que les deux parties ne bougent pas. Elles aussi ne tiennent pas compte de ce changement. Deuxièmement, il y a un rendez-vous qui est d'ores et déjà fixé au mois de septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies pour le vote d'une résolution qui reconnaîtrait l'État palestinien. Et je pense que si les choses se passent comme ça, brutalement comme ça, personne n'en tirera profit. Ni les Israéliens, qui seront un peu plus isolés, ni les Palestiniens, parce que je ne suis pas sûr que le lendemain du vote de la résolution, la vie quotidienne des Palestiniens changera dans les territoires palestiniens, ni les Américains, ni les Européens qui se diviseront. D'où l'idée de la France, favoriser la reprise de négociations. Jusque-là, tout le monde est d'accord.
Quelle est la partie qui bloque le plus ? Est-ce que c'est la partie israélienne ou la partie palestinienne qui refuse d'avancer aujourd'hui ?
Les Palestiniens ont accepté la proposition française, ce qui consiste à dire, mettez-vous autour de la table à condition d'accepter tel et tel paramètre de négociation. Nous nous sommes d'ailleurs fondés pour définir ces paramètres, notamment sur le discours du président Obama, qui, vous le savez, pour la première fois dans la bouche d'un président américain, a fait référence comme point de départ de la discussion à la frontière de 1967. On est parti de là. Les Palestiniens nous ont dit, ok, Monsieur Netanyahou m'a dit à Jérusalem, on va voir. Mais je vous fais observer que l'une
c'est
des
pas très
responsables...
Optimiste, là, on va voir.
Ah oui, mais écoutez, c'est très très important, parce que moi je m'attendais à un non immédiat et définitif. Donc ça n'a pas été non. Et vous avez peut-être observé dans les colonnes du Figaro il y a quelques jours que la présidente d'un parti important, Kadima,
mais d'opposition,
a dit c'est une bonne idée. Monsieur Barak, qui lui est au gouvernement comme ministre de la Défense, n'est pas loin d'avoir dit la même chose. Vous voyez que...
Et Monsieur Netanyahou à Washington a plutôt fermé la porte.
C'était avant. Oui. Et donc, mais on n'a pas le temps de dire que dans le discours de Monsieur Netanyahou, Netanyahou, il y avait aussi des ouvertures. Donc voilà où on en est. Les Américains nous ont dit on est prêt à y réfléchir. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Eh bien, le 11 juillet, il va y avoir, je crois que c'est le 11, hein, sous réserve de vérification, une réunion à Washington de ce qu'on appelle le quartet, c'est-à-dire les Européens, les Américains, les Russes et les Nations Unies, pour, à partir du discours d'Obama et de la proposition française, appeler les partis à se réunir. Vous voyez que l'initiative n'est pas morte, et si jamais ça réussit, eh bien alors on aura la conférence de la paix que la France a proposée.
Et si rien ne bouge ?
Si rien ne bouge, nous aurons fait au moins le maximum pour éviter la confrontation.
La France votera-t-elle ?
Non, mais si rien ne bouge, précisément, voilà, on va aller à l'Assemblée générale de l'ONU avec aujourd'hui une résolution qui sera votée ou ne pas votée, portant reconnaissance de l'État palestinien. Et là, vous dites toujours, la France prendra ses responsabilités. Ça veut dire quoi ?
Ben, je vais vous décevoir, M. Boulot, je vais vous faire la même réponse.
Ah ben...
La France prendra ses responsabilités, ça veut dire que le moment venu, et le moment n'est pas venu, il faudrait d'abord accepter par anticipation l'idée que la conférence de Paris a échoué, ce qui n'est pas aujourd'hui avéré, loin de là. Et donc si elle réussit, à ce moment-là, la résolution n'a plus de sens, puisque les négociations ont repris. Et si elle échoue, eh bien alors nous verrons ce que nous ferons.
Est-ce que dans ce cas-là, si elle échouait, est-ce qu'il faut avoir absolument une opposition commune de l'Europe, ou est-ce que chaque diplomatie, donc en l'occurrence la diplomatie française, s'estime libre de décider ce qu'elle le souhaite ?
Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, une des raisons qui fait que la France a pris cette initiative, c'est en partie, peut-être pas l'essentiel, mais en partie pour éviter la division de l'Europe, parce que si ce scénario-là se vérifie, vote au Conseil de à l'Assemblée générale, je crains fort que l'Europe ne se divise. Et ça ne sera pas bon.
Gilad Shalit, ce soldat franco-israélien qui a été enlevé il y a 5 ans et qui est toujours détenu, est-ce que les choses avancent ? La France, clairement, s'est beaucoup engagée, travaille beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire... Oui, il y a un espoir qu'on avance, ou bien on est toujours bloqué.
La France, vous avez raison de le rappeler, s'est fortement engagée. Le président de la République lui-même a appelé à la libération de Gilad Shalit parce que sa détention est une violation caractérisée de toutes les règles du droit international et de tous les droits humains. J'ai moi-même rencontré les parents de Gilad Shalit quand je suis allé à Jérusalem. Il y a des médiations aujourd'hui qui se succèdent. Donc l'espoir, comme vous le dites, existe. Mais ce qui est insupportable, c'est les délais de cette négociation. Et donc nous appelons à nouveau le Hamas qui détient Gilad Shalit à le libérer.
Il le détient depuis 5 ans.
5 ans.
5 ans depuis hier, très exactement. Et les parents du soldat israélien si retenu mettent en cause le gouvernement israélien en lui reprochant de ne pas vouloir procéder à un échange de prisonniers. Est-ce que vous partagez ce sentiment que ce problème, ce dossier très difficile pourrait être géré autrement ?
Dans toute procédure de recherche de solutions, je crois que le rôle de la diplomatie française n'est pas de montrer du doigt tel ou tel. Simplement, nous disons que le Hamas porte une part de responsabilité, puisque c'est lui qui détient Gilad Shalit et qu'il doit le libérer.
Vous croyez à la réunion palestinienne ? Puisqu'on voit que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dit, là, il vient de le dire à l'instant, je veux aller à Gaza, je vais trouver un accord pour mettre fin à la division palestinienne. Ce serait quelque chose de positif ou pas ?
Vous savez, nos amis israéliens ont longtemps dit, on ne peut pas discuter avec les Palestiniens parce qu'ils sont divisés. Fatah, Hamas.
aujourd'hui, ils se réconcilient et on nous dit on ne peut pas discuter.
Il faudrait quand même que le Hamas accepte l'existence de l'État juif.
Laissez-moi terminer, monsieur. J'allais le dire. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main ce rapprochement, parce que ça aussi, c'est une des conséquences du printemps arabe et de ce qui se passe en Syrie. Le Hamas est déstabilisé par ce qui se passe en Syrie. Et donc, nous disons, il y a peut-être une petite chance de faire évoluer le Hamas. Dans quelle direction ? Eh bien, il faut qu'il accepte les préconditions que vous connaissez, c'est-à-dire reconnaissance de l'État d'Israël, bien sûr, mais aussi renonciation au terrorisme et respect des accords qui ont déjà été passés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une chance de le pousser dans cette direction ? Nous pensons que si, et que c'est cette chance qu'il faut saisir.
La première partie de ce grand jury est terminée. Alain Juppé, dans la deuxième partie, nous parlerons de l'Europe et puis aussi de la France, parce que l'année prochaine, il va se passer quelque chose en France qui nous intéresse tous. À tout de suite.
C'est la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité ce soir Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour la poursuite du grand jury. Alain Juppé, les chefs d'État et de gouvernement ont visiblement du mal à s'entendre, notamment ceux de la zone euro, pour aider la Grèce et pour éviter que l'euro ne connaisse sans doute un sort difficile. Comment expliquez-vous cette difficulté à sortir de la crise grecque ?
Je suis désespérément optimiste. Ils se sont entendus. Alors ça a été difficile parce que le problème est difficile. La France et l'Allemagne ont joué un rôle tout à fait déterminant, mais lors du Conseil européen, à la fois la phase actuelle du plan d'aide à la Grèce et la mise en route d'un nouveau plan ont été approuvé par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Donc, soyons positifs.
On ne sait pas, par exemple, on n'a pas bien compris, est-ce que les banquiers, les assurances, le secteur privé va devoir aider, combien, comment.
Les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à leur ministre de l'économie et des finances de se mettre d'accord dans les plus brefs délais pour ce plan. Il faut aider la Grèce. Hein. Si la Grèce ne parvenait pas à rembourser ses dettes, ce serait une catastrophe pour la Grèce. Si elle sortait de la zone euro, qu'est-ce qui se passerait ? Elle reprendrait son ancienne monnaie, la drachme. Mais toutes ces dettes resteraient libellées en euros. Et donc le poids sur la Grèce serait multiplié par un coefficient qu'il est difficile de déterminer. Il serait écrasant. Et d'autre part, si la Grèce était dans cette situation, l'effet de contagion sur d'autres pays européens emporterait l'euro. Or, je vous le dis, si l'euro est emporté, l'Europe est emportée. Et aujourd'hui, si l'Europe est emportée, dans la mondialisation qui est la nôtre, c'est une catastrophe pour nous tous. Nos pays verraient leur avenir bouché. Je pense, pour ma part, qu'il faut au contraire surmonter cette crise, et on y reviendra peut-être, en allant un coup plus loin dans la construction européenne.
Pardonne-moi, mais est-ce que c'est quoi un coup plus loin, puisque vous en êtes là?
Allons-y tout net. Hein, moi, je pense que la zone euro doit devenir une Europe d'essence fédérale, hein, avec un vrai gouvernement économique. C'est ce que souhaite le président Sarkozy depuis longtemps. Il a obtenu en grande partie satisfaction. Des progrès considérables ont été faits dans ce sens. Il faut une procédure budgétaire coordonnée. Ça y est, ça s'appelle le semestre européen. Il faut une politique monétaire qui implique à la fois la Banque Centrale Européenne, mais aussi le gouvernement économique. Et il faut une politique d'harmonisation fiscale. On ne peut pas vivre dans une zone avec la même monnaie et des pays qui ont un taux d'impôt sur les sociétés de 12, d'autres qui ont un taux de 33. Et voilà ce que j'appelle.
Avant que ces vœux deviennent économique européen, ça veut dire que ce gouvernement aura la possibilité. Comment sera-t-il nommé, ce gouvernement, et par qui? Mais la possibilité de contraindre la France à réduire ses dépenses publiques, à modifier sa fiscalité, c'est assez inimaginable quand même aujourd'hui. Ce sont des concepts riches de potentialité.
Non. Il y a déjà
des transferts inapplicables aujourd'hui.
Pas du tout. Il y a déjà des transferts de souveraineté extrêmement importants. Et nous avons déjà souscrit à un plan de stabilité et de croissance qui nous oblige à faire un certain nombre de choses. Si on s'efforce aujourd'hui de le faire, c'est bien parce que précisément on veut respecter cela. Et je crois qu'il faut aller encore plus loin dans cette direction. C'est en tout cas ce que la France essaye de faire.
Avant que ces vœux politiques deviennent peut-être un jour une réalité, celle d'une Europe fédérale financière, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les États sont suffisamment puissants pour tailler en pièces la spéculation qui joue la chute de la Grèce aujourd'hui et qui jouera peut-être demain celle de l'Espagne, de l'Italie ou du Portugal ?
Je crois que oui, et d'ailleurs les États y sont parvenus jusqu'ici. Hein ? Quelle est la parité de l'euro aujourd'hui par rapport au dollar ? L'euro est en crise, mais il n'a jamais eu une parité aussi élevée. Donc c'est une monnaie qui, avec des éléments de faiblesse, est aujourd'hui également puissante.
C'est
pas
la
meilleure nouvelle. Oui, mais vous pouvez pas dire tout et son contraire. Bien sûr que c'est un problème.
Pour nos exportateurs, oui.
Non, mais ça c'est de notre problème.
Bah oui, mais il est sérieux.
Bien sûr, c'est de notre problème. Il est trop fort.
50, un jour, 60, pourquoi pas.
C'est la démonstration que l'euro n'est pas faible et qu'il est trop fort. Donc vous allez dans mon sens. Vous allez dans mon sens. Et je souhaiterais effectivement que la politique des taux de change s'adapte davantage aux réalités économiques. Mais ne venez pas me dire que les États sont incapables de soutenir l'euro. C'était la question qui a été posée par Éric Revel. Voilà, c'était l'argument que j'essayais de développer. Et vous arrivez avec un autre argument tout à fait valable, je le reconnais, mais qui déplace le problème sur un autre terrain. Voilà, donc je crois que les États ont cette capacité, à condition d'agir vite, et je reconnais volontiers que le déficit aujourd'hui dans les mécanismes européens, c'est la vitesse de réaction. Ça prend trop de temps, parce qu'il faut se mettre d'accord à 27, naturellement, et qu'on ne se met jamais à d'accord en 27 s'il n'y a pas la locomotive franco-allemande en tête du train, et ça malheureusement, ça donne un champ à la spéculation.
Dans la Constitution française, par exemple, un niveau de déficit. Pardon. Est-ce qu'il faudrait inscrire un niveau de déficit une fois pour toutes ?
Vous êtes en train de soutenir un projet du gouvernement qui s'appelle la règle d'or, qui est en cours de discussion au Parlement.
Il avance très lentement.
Non, il n'avance pas très lentement, il est en cours de vote, il faut voter les lois, on ne peut pas comme ça décider ça comme ça. Ça a été voté par l'Assemblée nationale, je parle sous le contrôle des sénateurs qui sont là, dans la salle, ça va bientôt venir au Sénat, et nous aurons cette règle qui obligera par une loi d'ordre constitutionnel, les gouvernements à respecter
non,
un certain nombre.
On ne l'aura pas parce qu'il n'y aura pas de majorité au Congrès. Soyons raisonnables.
Ça on verra.
Ce qui a posé problème quand même dans la crise, enfin bien sûr vous êtes aujourd'hui Alain Juppé à la tête de la diplomatie française, donc peut-être vous ne pouvez pas en parler franchement, mais
c'est tout de même que la diplomatie ne doit pas être franche.
Tout de même un désaccord patent, visible de tous, entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, et peut-être pire que ça, une forme de désinvestissement de l'Allemagne, du projet européen. L'Allemagne, vous le notiez tout à l'heure avec un peu d'ironie, qui ne nous a pas soutenus en Libye, mais l'Allemagne qui a visiblement une approche du problème grec qui est assez éloignée de la nôtre. C'est un problème, quand même.
Bien sûr, c'est un problème. Est-ce que vous connaissez une période de la construction européenne où l'Europe n'a pas avancé de crise en crise ? En d'autres temps, le général de Gaulle allait même jusqu'à laisser la chaise libre. Donc l'Europe, elle avance comme ça. Ça serait trop simple s'il y avait une convergence spontanée d'intérêts entre 27 États membres.
Vous ne trouvez pas que les Allemands se désinvestissent un peu des projets européens ?
Je ne pense pas.
Ils sont un peu lassés de payer pour les autres, par exemple.
C'est vrai qu'ils ont une vision aujourd'hui de l'Europe qui n'est plus celle que pouvait avoir Adenauer ou Kohl. Les choses ont évolué. Mais je crois que l'Allemagne a parfaitement conscience de l'importance vitale que constitue pour elle la construction européenne et la zone euro. Avec qui ? On dit toujours que le modèle de croissance allemand, il est fondé sur l'exportation. Où vont les exportations allemandes ?
Essentiellement en Europe.
Dans la zone euro à 60%. Mais donc l'Allemagne a fondamentalement intérêt à ce que la zone euro se porte bien, à ce que l'Europe se porte bien.
Mais visiblement, les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs. C'est assez fort.
C'est normal qu'ils veulent payer pour autrui. Mais jusqu'au moment où on se rend compte que c'est son propre intérêt et on y arrive.
Est-ce qu'il faut faire payer les banques, Alain Juppé ?
Oui, certainement, sur une base volontaire.
Volontaire, en leur tournant un peu le bras.
C'est ce qu'on a décidé. Ouais. Enfin, faire payer les banques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver des mécanismes qui permettent d'éviter d'asphyxier les débiteurs. Et alors, je ne vais pas rentrer dans la technique. On va prolonger les dettes qui arrivent à maturité. Et je pense, je ne veux pas m'engager sur le terrain des ministres des Finances, mais que si on ne veut pas, il faut demander à la Grèce des efforts. La Grèce a fait des erreurs. Elle a même fait des fraudes. Donc il est normal qu'aujourd'hui elle rectifie ses erreurs et ses fraudes. Mais on ne veut pas faire en sorte que le malade guérisse chercher la bonne expression.
Ouais, c'est dans cet ordre-là que ça marche.
C'était dans l'autre sens.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc il faut trouver le point d'équilibre qui exige de la Grèce les efforts nécessaires sans l'asphyxier complètement.
Alors pour faire le lien avec les affaires françaises, est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître que ce problème de la dette publique va être un sujet absolument fondamental pour la France dans les années qui viennent et que ça va, en toute hypothèse, peser sur celui qui sera le président de la République en 2012 comme un sujet central, la dette.
Évidemment, oui. Évidemment, oui. Et permettez-moi de vous rappeler, mais vous connaissez la vie politique française aussi bien, sinon mieux que moi, que j'ai déjà donné pour ça. 95-97, la réduction des déficits et de la dette, c'était un objectif prioritaire et on a atteint des objectifs extrêmement importants dans une impopularité garantie avec le résultat que l'on sait. Donc voilà, je suis prêt là aussi à assumer à nouveau.
Il y a une petite différence, c'est que vous faisiez, comment dirais-je, vous êtes arrivé à Matignon après une campagne qui avait été une campagne de promesses. Si la dette est un enjeu de campagne, ça veut dire que nous pourrions vivre pour la première fois une campagne présidentielle sans promesses.
Ah ben écoutez, le Parti Socialiste, on ne prend pas le chemin en tout cas.
Mais le Parti Socialiste, ce n'est pas votre parti.
Ah bah non, enfin vous me parlez de la campagne électorale en général.
Donc candidat
je ne peux que souhaiter que vous ayez raison. Ouais. Mais quand on voit que le programme du Parti Socialiste, c'est une bonne dose de protectionnisme, une bonne dose d'étatisme, une bonne dose d'augmentation des impôts, on se dit que ça ne fera pas comme en 81. Vous vous souvenez qu'en 81, il a fallu 2 ans, si je me trompe, ou 3 ans avant qu'on aille dans le mur. Et que M. Delors dise stop. Là, ça prendra 15 jours. Parce que les agences de notation seront là en observation. Et bon, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Et alors, nous, on ne fera pas campagne comme ça.
Oui, je vous rassure tout de suite. Votre candidat ne doit pas faire de promesses. Il doit.
Qu'est-ce que ça veut dire, faire des promesses?
Il ne doit pas faire des promesses coûteuses, quoi.
Il ne doit pas faire des promesses démagogiques, naturellement. Mais il doit prendre des engagements. C'est tout à fait différent. Il en prendra.
Mais par exemple, sur la dette publique, puisque c'est un thème central, vous le disiez.
Il faut la réduire.
Bon, il faut la réduire. Alors, très concrètement, on fait
il n'y a qu'un seul moyen de réduire la dette, c'est de réduire les déficits. Plus vous avez de déficits, plus vous vous endettez. Et donc, pour cesser de s'endetter, il faut réduire les déficits. Et c'est pour ça que nous menons aujourd'hui une politique extrêmement courageuse qui s'appelle la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques. Claude Guéant y a beaucoup travaillé en d'autres temps lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée. Et ça donne des résultats. Si le retour de la croissance se confirme, ce qui a été le cas au premier trimestre, vous le savez, les deux s'ajouteront et nous pourrons atteindre notre objectif de réduction des déficits de 3% en 2013, si je ne me trompe, et c'est comme ça qu'on arrivera à léger le fardeau de la dette.
Sur la question de la fonction publique, est-ce qu'il faudra continuer à moins remplacer? Est-ce qu'il faudra continuer à réduire les effectifs de la fonction publique?
Je crois que la règle du non-remplacement de un fonctionnaire sur deux était une bonne règle, et qu'on a eu raison de l'appliquer. Le président de la République a indiqué que, par exemple, dans l'éducation nationale, pour la rentrée 2012, des ajustements seraient faits.
Non. Excusez-moi, il a dit que
vous avez raison. Oui. Et que des postes seraient dégagés.
Il a dit que les classes primaires ne seraient plus fermées, mais pour la règle d'un fonctionnaire sur deux, ça, on n'a pas eu de précision
là-dessus. Écoutez, elle est appliquée aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose.
Savez-vous pourquoi le président de la République demeure aussi impopulaire, Alain Juppé ?
Parce qu'il fait des réformes courageuses, bien entendu, et qu'il a été...
Il n'est pas compris, il est incompris.
Oh, on verra. On verra. Vous savez, les sondages, hein. On est aujourd'hui à M moins combien, 10 ou quelque chose comme ça. On ne connaît pas le candidat socialiste, on ne connaît pas les projets qui sont en concurrence, on ne connaît pas le contexte politique, économique et social. Bon, et on a vu dans la période récente qu'il peut se produire des événements qui tout d'un coup bouleversent tout. Donc, avant de prêter attention sérieusement aux sondages, attendons d'être en période véritablement électorale, c'est-à-dire à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
Nicolas Sarkozy reste le meilleur candidat de l'UMP aujourd'hui, Alain Juppé ?
Pour moi, sans aucune hésitation possible. Hein. Vous savez que je n'ai jamais été un sarcolâtre, donc si je soutiens Nicolas Sarkozy, c'est pas parce que je suis par construction un de ses fans. Nous sommes des amis. Nous avons eu des confrontations dans le passé, des divergences, mais aujourd'hui, je considère qu'il est le meilleur candidat pour la famille à laquelle j'appartiens. Cela pour 3 raisons. La première, c'est qu'il a bien travaillé. Depuis son élection en 2007, on a fait le bilan il n'y a pas longtemps, 2 ou 3 indications simplement. Révolution dans l'université, c'est un vrai bouleversement positif. Grenelle de l'environnement, aujourd'hui on ne se déplace plus dans nos villes et on ne construit plus dans nos villes comme avant, grâce au Grenelle de l'environnement. Réforme des retraites, je souhaite bien du plaisir à la France, hélas. Si jamais un gouvernement était élu l'année prochaine qui abroge la réforme des retraites, ce serait une erreur majeure. Et stratégique. Donc voilà ce qu'a fait Sarkozy. C'est son premier atout. Le deuxième atout, c'est que dans la crise, eh bien, il tient la barre. Et ça, les Français l'ont vu. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que par rapport aux promesses de 2007, il y a eu la plus grande crise économique du siècle, et même d'un peu plus que du siècle. Eh bien, dans la crise, il a l'intuition. Il fixe le bon cap et il tient la barre. Et ça, ça va jouer un rôle extrêmement important parce que les crises, malheureusement, il risque d'en avoir beaucoup dans les années qui viennent. Et puis enfin, il a une capacité à faire campagne, à prendre des initiatives, à convaincre, à entraîner, qui est exceptionnelle. Et je lui fais confiance dans la campagne pour que ses qualités jouent.
Vous n'êtes pas sarcolâtre, mais vous êtes sarcophile.
Non, aujourd'hui, je soutiens Sarkozy pour des raisons qui ne sont pas des raisons sentimentales, qui sont des raisons de réflexion.
Étienne Mougeot ?
Vous avez soutenu la création de l'UMP qui était... le rassemblement des gaullistes et des centristes. Et puis aujourd'hui, voilà que se crée, sous l'initiative de M. Borloo et de quelques autres, un rassemblement des centres qui amène, peut-être, à l'éclatement de l'UMP. Est-ce que c'est pas vers ça, inévitablement, qu'on va ?
Non, je n'en suis pas sûr. Il y a une autre solution, c'est que cette opération foire. Il ne faut pas non plus l'exclure complètement. C'est quand même un peu curieux. J'entends M. Borloo découvrir que, voilà. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois, il faisait une campagne effrénée pour être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy.
Il a toujours nié.
Est-ce qu'il y a un peu de dépit dans tout ça? J'en sais rien.
Il a toujours nié. Il a dit non, non. Pardon? Il a dit non, non.
C'est une notoriété publique, vous le saviez bien. D'ailleurs, vous avez fait des tas d'articles là-dessus. Vous en parlez tout le temps.
Mais vous pensez que la presse a toujours raison?
Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Et en tout cas, moi, ce que j'attends de cette opération-là, c'est qu'un jour, on a un projet. Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une bonne opération. C'est une opération de division. Nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile, c'est vrai. Il faut rassembler la famille. C'est ce que j'ai essayé de faire en son temps avec l'UMP. Et je pense que la sensibilité centriste, modérée, elle a toute sa place dans l'UMP. D'ailleurs, vous observerez que le nombre de parlementaires dits centristes ou radicaux qui suivent l'initiative de Jean-Louis Borloo n'est pas considérable pour l'instant.
Un candidat Borloo pourrait faire perdre la majorité qui gouverne aujourd'hui ?
Oui.
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 D'accord.
Primaire du Parti Socialiste, monsieur Juppé, le 9 et le 16 octobre prochain. Jean-François Copé, pour l'UMP, a mis en avant ses craintes de la confection, lors de la tenue de ses primaires, d'un grand fichage, d'un grand fichier politique. Est-ce que vous partagez cette crainte de Jean-François Copé?
Écoutez, moi je pense que l'exercice des primaires est un bon exercice de démocratie, hein, y compris dans un parti politique. Je ne sais où qu'à Bordeaux, on ne facilitait pas les choses au Parti Socialiste, c'est tout à fait faux. Je dis simplement pas dans les écoles, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, mais on cherche des salles pour que cette opération puisse se dérouler. Cela dit, il y a un problème. J'ai écouté Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, et j'ai été tout à fait convaincu par ce qu'il a dit. Ainsi, on garde des listes dans lesquelles on a une indication de l'orientation politique des citoyens, c'est un problème.
Mais c'est d'ailleurs le parti détruit un mois.
L'engagement est pris, le parti socialiste
s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème. Hein, voilà, donc s'il arrive à le régler, très bien. Faisons confiance, espérons que les photos copieuses ne marcheront pas.
Au moment où on photographie instantanément tout, est-ce que vraiment, sérieusement, on peut même détruire un fichier et l'avoir gardé?
C'est un problème.
Vous dites que les primaires, c'est bien, y compris dans un parti politique. Il faudrait acclimater votre parti politique à l'idée des primaires?
Ah oui, le jour où le candidat de notre parti ne sera plus le président sortant, on pourra faire des primaires. Hein. Mais là, ça n'a pas de sens. Le président de la République appartient à notre famille politique. Et je vous ai dit les raisons que nous avions de le soutenir, enfin que personnellement je pense avoir de le soutenir.
Qu'avez-vous pensé du soutien public et de son expression de Jacques Chirac qui a apporté donc un soutien public à François Hollande?
Bon, moi j'ai bien regardé les images, c'était en Corée, c'était la fête, voilà, il y avait de la musique, tout ça, donc
il dit,
c'était l'ambiance.
Il dit, puisqu'Alain Juppé ne sera pas candidat, je voterai Hollande.
Ça c'est vrai, oui.
Alors
Pas de commentaire.
Ça faisait suite, ce propos de Jacques Chirac faisait suite à des mémoires qui n'étaient pas sympathiques pour Nicolas Sarkozy. Donc il y a quand même un peu plus que la fête, il y a une pensée, une espèce de continuité. Aujourd'hui, Jacques Chirac dit peut-être sur Nicolas Sarkozy ce qu'il a tout le temps pensé, qu'il n'a pas dit.
Moi j'ai entendu Jacques Chirac me dire qu'il ne souhaitait pas interférer dans la campagne présidentielle, qu'il s'est retiré de la vie politique et qu'il reste en retrait de cette vie politique.
Alors quand on se promène en Corrèze, on est peut-être dans la fête et donc parfois on formule des expressions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais quand on écrit ses mémoires, là par contre, on imagine qu'on est tranquille et qu'on ne dérape pas. Quand Jacques Chirac dit, avec Nicolas Sarkozy, nous ne partageons pas la même vision de la France, qui est un chiracien historique et un ministre d'État du président Sarkozy, quelle est cette différence de vision de la France?
Moi, je ne l'aperçois pas. J'ai servi Jacques Chirac avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fidélité. Et aujourd'hui, je travaille aux côtés de Nicolas Sarkozy avec
Il n'y a pas de différence entre
Je ne vois pas dans la politique étrangère que nous menons aujourd'hui de différence fondamentale. C'est toujours la même idée d'affirmer la place de la France, de défendre les intérêts de la France, de soutenir les valeurs de la France. Ce que nous avons fait en révisant notre politique arabe à cause du printemps arabe est exactement dans cette ligne-là. Faire que la France soit porteuse d'un message de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Moi, je me sens tout à fait à l'aise dans cette politique.
Vous avez eu du mal pourtant, le gouvernement a eu du mal à comprendre ce qui se passait dans les pays arabes.
Oh, bon, on n'a pas été les seuls.
Non, mais...
enfin, je veux dire, la presse en général, oui, qui a vu arriver
c'est ce qui s'est passé en Tunisie. C'est moins important. Ah, oui, mais quand ça se produit, du retard à l'allumage, quoi. Écoutez. Que la presse ne l'ait pas vu, ce n'est pas très important.
Non,
que le gouvernement
ne
l'ait pas vu, ça engage plus le pays.
Je
ne
veux pas faire de critique à la presse. Je veux dire, aucun think tank, aucun autre gouvernement, aucune chancellerie n'a vu arriver ce qui s'est produit. Et nous avons reconnu, j'étais le premier à le dire, je crois, que nous nous étions peut-être laissés intoxiquer par le discours de ces autocrates qui nous expliquaient qu'ils étaient les meilleurs et les seuls remparts contre l'islamisme. Et on s'est rendu compte que ça n'était pas vrai. Donc c'est vrai qu'il y a eu un temps de latence, peut-être, un temps de réflexion, mais je crois qu'on peut dire que la France a été parmi les pays qui a compris le plus vite et réagi le plus vite.
Bon, pour revenir au primaire socialiste, il y a deux candidats favoris, François Hollande, Martine Aubry, Martine Aubry, François Hollande. Est-ce qu'il y a pour vous des différences entre les deux? Et est-ce qu'il vaudrait mieux que le candidat Sarkozy, en l'occurrence, pour gagner, affronte l'un plutôt que l'autre? Ou ça vous est indifférent?
Il battra les deux.
Et les deux, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc.
Non. Bah, parce que pour toutes les raisons que je vous disais dites, le jour où les Français verront que d'un côté, il y a un programme démagogique qui leur promet des impôts supplémentaires, des dépenses supplémentaires avec les risques que tout cela comporte pour la France, moi j'ai confiance dans le bon sens des Français. Quant au, l'expression de préférence, moi je ne vais pas voter pendant les primaires. Non, parce que pour aller voter, il faut dire qu'on adhère aux idées et aux valeurs de la gauche. Et il y a des valeurs de la gauche auxquelles je peux adhérer, naturellement. La justice, est-ce que c'est une valeur de gauche? D'ailleurs, c'est une valeur tout court en soi, mais j'adhère pas au programme politique de la gauche, donc j'irai pas voter. Pour le reste, j'en sais rien. Certains trouvent Hollande plus souriant qu'Aubry, peut-être, c'est pas. Je sais pas, monsieur Hollande a pas beaucoup d'expérience internationale dans la crise. Madame Aubry, les 35 heures quand même, qui pèsent. Tout ça, bon voilà, il faut faire une balance entre les deux, on verra le moment venu.
Vous le disiez tout à l'heure, gouverner, c'est aussi prendre en compte l'état de l'opinion publique. Un sondage réalisé pour Ouest France indique...
Pas toujours, j'ai dit.
Pas toujours, mais parfois, vous l'avez
parfois,
dit.
Parfois, souvent même.
Ah, souvent, tiens. Un sondage réalisé pour Ouest France indique que 63% des Français sont favorables au mariage homosexuel, et on a l'impression... pas toujours bien compris pourquoi l'UMP ou les arguments de l'UMP, certains étant même à peine acceptables d'ailleurs de la part de certains parlementaires de l'UMP, pourquoi ce refus absolu du mariage homosexuel ?
Parce que c'est un changement profond dans les mentalités. Hein. On dit souvent que la France se droitise. Bah, moi j'en crois rien. Elle est plus exigeante.
C'est le président qui dit ça. Hein.
Bah oui, ben, je vous le dis. Je le crois pas. C'est vrai que les Français sont exigeants en matière de sécurité, en matière de politique d'immigration. On va faire la troisième fois que je le cite, mais tant pis, ou tant mieux. Je voudrais rendre hommage à la politique que Claude Guéant fait dans ce domaine, qui est extrêmement claire et courageuse. Mais dans le même temps, en matière de mœurs, les Français sont de plus en plus ouverts. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas avant. Ben écoutez, si, moi aussi j'ai évolué. Et je pense aujourd'hui qu'il faut donner aux homosexuels exactement les mêmes droits qu'aux hétérosexuels. Est-ce qu'il faut appeler ça un mariage ? Moi, j'aurais préféré qu'on fasse preuve d'un peu plus de créativité et qu'on trouve un nom différent. Mais enfin, bon, égalité des droits, là, je suis en phase complète.
Vous êtes favorable au mariage, alors ?
Pardon ?
Vous êtes favorable à un mariage, alors ?
Pourvu qu'on change le nom.
Je viens de vous dire égalité des droits. Bah, c'est
donc
ça,
vous êtes favorable à un mariage ?
Je suis favorable à quelque chose qu'on pourrait appeler un mariage ou autre chose. Je préférerais qu'on l'appelle autrement.
Ça va faire mais un qu'il petit choix, parce que jusqu'à droits. Présent, vous ne l'avez pas beaucoup cité, mais Roselyne Bachelot est là aussi, elle est juste derrière moi, on va peut-être
et
la
je
voir.
Je le cite. Je suis...
Et alors, jusqu'à présent, la seule au gouvernement qui a eu...
Non, les deux, voilà.
Voilà, vous êtes deux.
Ça fait un couple.
Ah, ça fait un couple hétérosexuel, là, pour le coup. Oui, bien sûr, bien sûr.
Et en revanche, vous voyez, moi, sur l'adoption des enfants par des couples homosexuels, j'y suis pas encore. Je dis pas que dans 5 ans ou dans 10 ans, hein, quand les mœurs évolueront. Vous savez, Montesquieu a dit souvent que la loi était aussi l'expression de l'opinion générale et de l'évolution des mœurs. Et on le voit bien, là.
On a lu dans la presse ces derniers jours que le ministère des Affaires étrangères avait été saisi d'une demande de la part de la Brigade de protection des mineurs à la suite des propos de Luc Ferry concernant une éventuelle personnalité qui aurait commis des actes de pédophilie au Maroc. La Brigade de protection des mineurs aurait demandé au ministère des Affaires étrangères la possibilité d'entendre des diplomates en poste au Maroc au tournant des années 2000. Est-ce que vous le confirmez, Alain Juppé ?
C'est exact. Les diplomates, naturellement, répondront à l'invitation de la justice.
Certains ont été convoqués déjà ?
Je ne le sais pas. Enfin, je sais que la demande a été exprimée. Je ne sais pas si des rendez-vous ont été pris, mais naturellement, ils collaboreront avec la justice.
Votre activité ministérielle ne vous en laisse peut-être pas le temps, ou peut-être d'ailleurs. Vous avez vu le film La Conquête au cinéma ?
Oui.
Alors c'est ma femme qui m'a convaincu d'aller le voir.
D'accord.
J'avais pas très envie parce que quand je vais au cinéma, je préfère les péplums ou les thrillers. J'ai trouvé que ça rendait. Vous allez encore m'accuser de sarcolatier. J'ai trouvé que ça rendait Nicolas Sarkozy formidablement sympathique. Les méchants dans le film, c'est pas lui.
C'est qui?
Oh ben vous le savez, vous l'avez vu le film.
J'ai vu le film.
Avec les téléspectateurs ou les auditeurs, ils le voient, ils verront.
Mais vous l'avez bien aimé. Vous avez trouvé que c'était un bon film politique.
J'ai trouvé que l'artiste était. L'acteur, excusez-moi. Qui est un artiste d'ailleurs, est formidable. Quand il est de dos, on croirait Nicolas. La démarche, c'est hallucinant.
Une dernière question, monsieur.
Pardon, le président de la République, excusez-moi.
Oui, Nicolas, on avait compris de qui vous parliez.
Oui, peut-être les radars. Les radars, on en est où? On retire pas, on remplace les radars. Les panneaux par des radars pédagogiques
Bon, écoutez, là, mon quotidien, c'est la Libye, c'est la Syrie, c'est l'Afghanistan. Voilà, j'ai pas d'idée très, très précise là-dessus. Simplement, qu'il faut faire attention, qu'il faut des mesures de sécurité routière sévères, et que par conséquent, cette politique des radars, qui a donné d'excellents résultats, ne doit pas être relâchée. Quant aux modalités pratiques, alors quatrième fois, j'avais confiance à Claude Guéant.
Voilà, on va arrêter ce grand jury, parce que sinon on va croire que Claude Guéant était l'invité, mais non, c'était vous, Alain Juppé, qui en étiez l'invité.
Je suis très heureux de voir qu'il y a autant de ministres, et je les remercie d'avoir pris sur leur dimanche.
10. C'est très rare qu'il y en ait autant, je ne sais pas ce qu'elle signe, il faut... J'ai lu un papier où on dit
sympathie,
que...
Sympathie, tout simplement, je pense.
J'ai lu un papier où on disait, on ne voit pas comment Nicolas Sarkozy, s'il est réélu... On peut éviter de nommer Alain Juppé Premier ministre.
Chirac m'a déjà fait le coup en m'appelant la meilleure d'entre nous, alors une fois ça suffit. Hein.
D'accord. Alors on en reste là.
On ne prend pas la poisse.
Dimanche prochain, même lieu, même heure. Bonsoir.
Merci Jean-Michel Apathy. À demain matin, 7h50, avec l'invité de RTL, Ramayad.